Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! Avocat, juge, politicien et humaniste. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, Robert Clich.
Savez-vous que, après ma nomination, des amis, des gens qui me connaissaient m'ont dit « Sais-tu, on a peut-être voulu se débarrasser de toi, te liquider de la scène politique. » Mais enfin, je ne sais pas les motivations qui ont pu prévaloir auprès de ceux qui m'ont nommé. Moi, en tout cas, j'ai accepté, je fais mon boulot, puis je suis heureux.
Les paroles de Robert Clich sur le plateau de Lise Payette, c'était en décembre 1972. Personnage charismatique, orateur exceptionnel, Robert Clich est toujours demeuré fidèle à ses convictions. D'abord comme avocat et comme juge, où il a participé activement à la mise en place de la Cour des petites créances, et puis comme politicien, où il a milité activement pour le NPD. Mais on retient surtout de lui la fameuse commission Clich sur la liberté syndicale dans le milieu de la construction, un travail qui va exposer au grand jour les pratiques d'intimidation et les liens entre certains syndicalistes et le crime organisé.
Les avocats, il faut bien le dire, à mon point de vue, et c'est triste d'avoir à vous le dire, je le pense, je vous le dis, vous avez perdu toute forme de crédibilité dans le public. Vous menez une bataille d'arrière-garde. Et les gens qui vous voient vous prononcer, par exemple, souvent avec de bonnes raisons et avec de bonnes motivations aujourd'hui, contre le système du no fault. Les gens vous regardent et vous disent « Ah, si les avocats sont contre, ça veut dire que ça doit être bon. » Ils vous voient avec le signe de pièce d'en face, comme on dit chez nous. Puis ça se comprend. Vos bureaux vous coûtent cher. Vous avez commencé par mettre des tapis épais et moelleux pour assourdir toutes sortes de bruits qui pourraient vous troubler, puis vous n'êtes pas souvent là, il y en a plusieurs qui voyagent, qui font partie du jet set. Vous mettez au mur des tableaux qui sont souvent pas beaux, mais qui vous coûtent très cher. Et vous avez souvent des bibliothèques extraordinaires que vous n'avez même pas le temps de consulter. Mais vous allez être sauvés. Vous allez être sauvés parce qu'il y en a 50 % parmi vous autres qui allez devenir pauvres.
Un discours de Robert Clich devant le Congrès du barreau du Québec, donc des avocats, c'était le 13 mai 1977. Alors, pour nous parler de ce personnage haut en couleur, on l'a entendu ici, mon invité, Jonathan Livernois, il est professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval. Il vient de faire publier une biographie sur Gérald Godin. Godin qui a d'ailleurs entretenu des liens d'amitié avec Robert Clich. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Maxime.
On a l'impression de personnages plus grands que nature, hein, de la stature des Godin, justement, des Lévesque, des Trudeau, des Drapeau et compagnie.
Oui, c'est de cette génération, hein, je dirais, effectivement, un personnage très grand, très solide, avec une verve extraordinaire, un tribun, hein, on l'a bien entendu, c'est mettre finalement son auditoire dans sa petite poche, pourrait-on dire. Mm-hmm. Donc, vraiment un personnage haut en couleur qui a largement dépassé sa Beauce natale, même s'il a passé l'essentiel de sa vie.
Oui, tout à fait. Pierre Beauceron, hein, fils d'un notable de province. Alors, c'est qui, Robert Clich, et bien d'où?
Bien, Robert Clich vient de Saint-Joseph-de-Beauce, hein, qui est une très vieille paroisse de la Beauce, justement, donc né en 1921. C'est un fils de juge, en fait, de futur juge, Léonce Clich, et sa mère était Béatrice Gosselin. C'est une famille de rouges, donc on sait à l'époque, hein, on est séparés entre bleu et rouge au Québec, entre les conservateurs qui sont les bleus, les rouges qui sont les libéraux. Oui. Donc, il participe de cette famille et assez naturellement, quand il sera un jeune homme, il va lui-même être du côté, évidemment, des rouges, des libéraux. Il suit un chemin assez classique au fond, hein, donc de 1931 à 1941. Ce sont des études classiques qui va prolonger un petit peu. D'abord au séminaire, au petit séminaire de Québec. Il va, fait à noter, aller parfaire son anglais. On le faisait à l'époque à Saint-Dunstan's, à l'île du Prince-Édouard. Et il va finir son cours finalement, revenir à Lévis. Encore une fois, fils de bourgeois, fils de notable, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il s'en va en droit à l'Université Laval. À l'époque, il rencontre, vous évoquiez un instant, l'ancien premier ministre Lévesque. Ben, il va le rencontrer au détour de parties de cartes. Hein, ça joue beaucoup aux cartes à l'Université Laval, semble-t-il, plus que d'aller au cours dans certains cas. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer d'ailleurs Jacques Ferron et sa sœur Madeleine, qui va devenir sa femme. Donc, des études, et ça se termine, évidemment, par le barreau en 1944.
Oui. Donc, destiné presque à devenir avocat. Il le sut très, très jeune. On va l'écouter nous en parler. C'était au micro de Fernand Séguin et Gérard Pelletier à notre télé au mois d'août 1965.
Monsieur Cliche, vous êtes beauceron et vous êtes socialiste. C'est une combinaison assez rare parce qu'il est bien connu que le milieu rural n'est pas particulièrement favorable à la culture des idées de gauche. Est-ce que vous êtes vraiment un rural, je veux dire, avez-vous été élevé sur une ferme?
J'ai pas été élevé sur une ferme, mais je suis né ici. Vous voyez ici en arrière, sans doute, les pins, les touffes de pins, là, c'est là que j'ai été élevé, à l'ombre du clocher de l'église. Alors, dans ce sens-là, je suis un rural, ma famille était ici il y a 200 ans.
Mais vous, qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à prendre le droit? La tradition familiale?
Oui, j'ai commencé à faire des discours, j'avais 7 ans. Je me souviens, j'ai encore une vieille voisine que je rencontre de temps en temps. Elle me trouvait bien ennuyant. Je montais sur le balcon de la maison chez nous, puis j'engueulais les petits voisins. Alors, ils ont dit, ce garçon-là, il va faire un avocat. J'ai pas eu la crise de la vocation, M. Pelletier.
Et venir ici pour faire carrière comme jeune avocat, ça a été un choix délibéré?
Ça a été un choix délibéré, oui. En ce sens que je sortais de la marine, il fallait que je gagne ma vie de façon assez rapide. J'avais déjà femme... Enfant s'en venait. Alors, je me suis dit que même si on n'est pas prophète dans son pays, j'avais une chance de gagner ma vie par ici. Alors, j'ai dit, je m'en retourne au pays de mes ancêtres, gagner ma vie.
Et c'est ce qu'il va faire, hein, avocat en Beauce, intéressé par le droit depuis, depuis longtemps, on l'a entendu, socialiste. Oui. Qu'est-ce qui l'amène à la politique? Comment il passe du droit à la politique?
Oui, c'est une bonne question. Comme beaucoup d'intellectuels de l'époque, des années 60, début 60, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'abord une espèce de volonté d'aller vers une gauche. La gauche, à ce moment-là, n'est pas du côté de l'indépendantisme, ou en tout cas, ce qui ressemble à l'indépendantisme à l'époque, c'est plutôt logé à droite. Donc, il est, comme d'autres, attiré par un parti qui vient de naître, qui est né de la cuisse du CCF, c'est-à-dire le NPD. Donc, il s'y implique. Il était au Parti libéral, on s'en souviendra, mais en 63, avec différentes prises de position de Lester B. Pearson, le premier ministre canadien, sur peut-être l'accueil de fusées nucléaires sur le territoire canadien, donc il se fâche et dit, ben moi, je vais embrasser la cause du NPD. Et il va rester là, il va être fidèle au NPD, à telle enseigne qu'en 1964, il est chef du NPD Québec et va même se présenter à plusieurs reprises, notamment en Beauce, mais aussi dans la région de Laval, à Duvernay. Il ne gagnera jamais, mais il devient l'incarnation francophone du NPD. Alors que ses amis, eux, tout à coup, comprennent qu'il existe une sorte de néo-nationalisme et que la gauche peut aussi être liée à l'indépendantisme. Donc, vont fonder des mouvements plutôt éphémères, des partis socialistes du Québec, par exemple. Mmh. Alors là, il y a une séparation et on la sent parfaitement bien dans la correspondance avec son beau-frère Jacques Ferron, qui ne cesse de le tancer et de lui dire qu'il fait fausse route. Ça va d'ailleurs faire une grande chicane dans la famille, mais il demeure donc fédéraliste et proche du NPD, même chef de ce NPD Québec jusqu'en 1968.
Oui. Et même dans ce parti, le NPD, hein, c'est pas facile. Les bons du parti sont plutôt réfractaires au nationalisme québécois. Ils le comprennent mal. En fait, ils comprennent mal le Québec. Ce que va tenter de corriger Robert Clich, on va l'écouter à ce sujet. Ses confidences à notre télé en septembre 1978.
Ces hommes étaient des socialistes et ils avaient peur du nationalisme. Lentement, j'ai réussi à les convaincre qu'il y aurait une poussée nationaliste au Québec. Comment se manifesterait-elle, je ne le savais pas à l'époque. Je tiens bien à vous dire que ce ne fut pas facile de convaincre des gens comme Douglas Lewis et les autres que le nationalisme pouvait être une vertu de gauche, si je peux dire. Eux, étant donné leur vieille formation, percevaient le nationalisme comme une valeur de droite. Et moi, je leur disais, mais le nationalisme d'après-guerre que l'on a connu dans les pays d'Afrique qui se sont émancipés, dans les pays d'Asie qui luttent pour leur émancipation, dans des luttes titanesques anticolonialistes, ces pays-là, qui sont aussi socialistes à leur manière, sont venus au socialisme par le nationalisme.
Intéressant, parce qu'il il va réussir même à les convaincre de reconnaître une certaine clause pour le Québec. Là.
Oui, mais ça ne sera jamais suffisant. Et on sait que le vieux problème du NPD, encore dans les années 2000, c'était ça, c'était la reconnaissance d'une spécificité québécoise. Mm-hmm. Mais on sait, par exemple, que vers 1975-76, selon en tout cas les confidences de Gérald Godin, avec Lucien Bouchard et même René Lévesque, il se serait rapproché du Parti québécois. Il ne sera jamais véritablement souverainiste, mais on sent une approche. Hein. Finalement, lui rejoint peut-être ses amis, mais bon, ça va rester là parce que malheureusement, il meurt. Mm-hmm. Mais chose certaine, en tout cas, il y a une évolution et il y a un nationalisme très clair chez lui qu'il a essayé de concilier avec le NPD jusqu'en 68, où là, ben, à la suite de nombreuses défaites, il se retire sur ses terres et pratique le droit jusqu'en 1972, où il se passe un événement assez important pour lui.
Bien, justement, il sera nommé juge.
Hein? Exact.
Il va jouer un rôle important dans la mise en place de la Cour des petites créances. À première vue, c'est pas très prestigieux. Pourquoi il y tient tant à ça?
Il participe de sa vision très humaniste, très citoyenne du droit, l'idée, donc, justement, de, bon, il met ça en place avec d'autres, on sait, des petites créances, hein, il n'y a pas d'avocat. Donc, lui, il joue un rôle un peu pédagogique comme juge, à la fois avocat de la défense, procureur, discute avec les gens. Alors, pour lui, ça correspond tout à fait à la vertu pédagogique du droit et il met ça de l'avant. Il est donc nommé juge, effectivement, on l'entendait dans l'extrait au tout début, donc on voulait se débarrasser de lui, je pense pas. Je pense qu'il a été... C'est un très bon avocat aussi. Alors oui, il va embarquer là-dedans, va aller dans le Grand Nord aussi, avec un tribunal itinérant. Donc, il vit véritablement ça et il est installé. En tout cas, il fait la navette entre Québec et Saint-Joseph-de-Beauce à ce moment-là. Fait à noter aussi, peut-être, à la même époque, avec sa conjointe Madeleine Ferron, il va écrire des textes, hein, ça montre l'attachement à la Beauce, des textes sur l'histoire de la Beauce. Il va faire apparaître deux livres avec Madeleine Ferron où il s'intéresse justement à la loi et l'espèce d'insoumission des Beaucerons. Ça, c'est intéressant parce que ça montre bien comment pour certains, la gauche, ou en tout cas, non pas la gauche peut-être, mais une certaine comment dire, une anarchie ou en tout cas un refus des règles peut très bien se loger à gauche comme à droite. Bon, d'ailleurs, certains vont voir que pour lui, il y a peut-être un lien à faire avec une tradition beauceronne de refus d'une certaine autorité. En tout cas, il met ça de l'avant dans ces textes-là, mais il va bientôt être appelé par une tâche très importante là, en 1974.
Oui, qui sera la commission Clich, mais on va l'écouter à nouveau parce que sur la cour des petites créances, puis le rôle pédagogique et se rapprocher du peuple, à nouveau, ce fameux discours devant le barreau du Québec, ça nous montre un peu où il loge ses valeurs. C'était le 13 mai 1977. On l'écoute.
Je voudrais vous citer une phrase d'un de mes auteurs favoris. J'ai pas le choix, c'est Madeleine Ferron, ma femme. Qui écrivait dans un de ses livres ceci. Le peuple est la seule force authentique. Momentanément, il peut errer, il peut se faire rouler, il peut se méprendre. Mais à la fin, il ne pourra jamais se tromper. Parce qu'à la fin, il ne pourra jamais se départir de son âme. Et il faudra que le barreau vous retrouviez l'âme populaire. Je ne vous demande pas à tout le monde de, comme dirait le Christ, laisse tes biens, va et suis-moi. Pas du tout. Mais je voudrais trouver parmi vous autres 10 ou 12 justes qui deviennent les flambeaux, puis les vrais. Puis que le peuple se retrouve dans les visages de ces 12 ou 15 ou 120 avocats, compte tenu du nombre que vous êtes aujourd'hui, puis que le peuple dirait, les avocats, vraiment, ils travaillent pas tellement pour leur portefeuille, il y en a que besoin, on va y laisser faire ceux-là. Il en faut. Mais ils travaillent vraiment pour les valeurs fondamentales dans lesquelles le peuple croit.
Et plus tard, ben, il va les engueuler gentiment, mais c'est comme ça pendant à peu près 8 minutes. Vraiment un discours fort intéressant devant des centaines d'avocats en 1977. Puis il va revenir justement sur l'aide juridique, la cour des petites créances, etc. Donc, on l'entend, quelqu'un qui a un charisme, un modèle d'intégrité, une figure déjà bien connue. Autant de qualités qui vont le mener à la fameuse commission Clich, donc en 1974. Pourquoi on se tourne vers lui?
Bien, Robert Bourassa, qui est premier ministre à ce moment-là, le connaît déjà et lui aurait dit « Écoute, tu as assez charlé dans ta vie, Robert, c'est le temps ou jamais d'agir. » Alors, semble-t-il que ça a fonctionné et il devient donc président d'une commission. Rappelons le contexte, c'est à la suite du saccage de la baie James. Il y a eu des conflits syndicaux, c'était le 21 mars 1974, on comprend qu'il y a vraiment là, une espèce de panier de crabes, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur la liberté syndicale. Alors, il est appelé à créer cette commission. Il va s'entourer de gens extrêmement intéressants. Les deux commissaires sont Brian Mulroney, le futur premier ministre, qui représente, disons, davantage la partie patronale. Et de l'autre côté, on a Guy Chevrette, futur ministre péquiste, qui, à ce moment-là, est plutôt syndicaliste. Et il s'entoure aussi de procureurs, et ça, c'est intéressant, des régions. Hein. Il veut pas de procureurs de Québec ou de Montréal, vraiment, il veut des gens des régions. Et il veut notamment Lucien Bouchard, aussi premier ministre, il a bien choisi,
oui.
et plusieurs autres, dont Jean Dutil, qui sera plus tard le président quand il sera juge de la commission d'enquête sur le crime organisé, une autre commission importante des années 70. Mais bref, cette commission-là fonctionne assez bien et entend toutes sortes de gens pour essayer de comprendre quelle est la liberté syndicale. Est-ce qu'on peut... Est-ce que la CSN est représentée? Est-ce que la FTQ fait l'appui et le beau temps? On se rend compte qu'effectivement, oui. Oui, il y a beaucoup de problèmes majeurs et il y a beaucoup aussi d'infiltration du crime organisé dans la FTQ, notamment la FTQ Construction. Un personnage que vous connaissez peut-être, André Dédé-Desjardins, qui était à ce moment-là, bon, le fameux local 144 là, des plombiers, qui est devenu plus tard président du Conseil des métiers de la construction de la FTQ, mêlé à la mafia. D'ailleurs, il va mourir un peu de manière...
Il est abattu.
Abattu en 2000. Ouais. Il est là, il emmène large, très large. Il va démissionner avant qu'on puisse l'accuser de quoi que ce soit, ou en tout cas pendant un certain temps. Bref, cette commission-là présente des gens haut en couleur et le commissaire, les commissaires et le juge, le président Clich, s'assurent que les médias suivent bien la chose. Donc, ils se servent des médias aussi pour promouvoir leur message. Ce qui est fascinant, Maxime, c'est la rapidité des travaux. Alors, ça commence, disons, quelque part au printemps 1974 et 364 jours plus tard, en étant 75, le rapport est déposé.
Ah, oui.
Et juste simplement citer la première phrase, une des premières phrases du rapport, qui est de Clich, j'en suis convaincu. Seuls 364 jours se sont écoulés entre notre assermentation et la remise de ce rapport. Nous n'avons pas perdu de temps, seulement des illusions. Et c'est un rapport qui fait mal, qui attaque toutes sortes de gens, qui attaque essentiellement la FTQ, mais quand même, là, c'est un rapport déterminant et ça a été aussi une espèce de rampe de lancement, on l'a bien vu, pour bien les procureurs comme Bouchard, Chevrette, tous ces gens-là qui deviendront des hommes politiques.
Oui, mais tout à fait, il est bien entouré. Puis, mais dès le début, hein, il a l'intention de faire le ménage. Oui. Là-dessus, il est assez ferme. On va l'écouter au micro de Pierre Nadeau en compagnie de Brian Mulroney et Guy Chevrette. Justement, c'était en décembre 1974 à notre télé.
À quoi doit-on s'attendre dans les semaines qui viennent? Est-ce que c'est vraiment la pointe du iceberg, comme on dit souvent, que nous avons vu jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y aura des révélations encore plus spectaculaires que tout ce que nous avons vu?
On peut dire, je pense bien, sans dévoiler les choses, qu'on va s'intéresser beaucoup à la commission des sur la construction. On va dévoiler certains aspects criminels de la part des syndicats. En touchant à la CIC et... à certains autres aspects du placement, par exemple. On va toucher à des patrons.
Il y a certains syndicats qui n'ont pas été mentionnés.
Ah oui, il y a encore certains syndicats auxquels on va toucher. Enfin, dites-vous une chose, Pierre Nadeau, puis là, je parle là, au nom des commissaires, je pense. Toute la preuve cohérente, forte et corroborée qu'on va avoir contre n'importe qui, on va y aller.
Détermination. Donc, il va le faire, mais dans les limites de la commission, parce qu'il n'y a pas énormément de moyens dans cette commission-là.
Non, mais il fait des recommandations quand même, et le gouvernement Bourassa va en mettre un bon nombre en place, notamment la mise en tutelle d'une partie de la FTQ, en tout cas du local 144 et d'autres organisations. Il y a quand même donc une réponse réelle à la chose. Donc, vraiment, exercer cette liberté syndicale devient une vertu cardinale, disons, pour le gouvernement libéral, qui se fait d'ailleurs un peu mais qui se fait un petit peu écorcher, notamment le ministre Jean Cournoyer. Mais donc, ça marque beaucoup les esprits. C'est cette époque donc, de remise en question. Mais en même temps, ce type-là, hein, vous voyez la phrase que je citais il y a un instant, on pourrait dire, ben voilà, c'est un peu négatif, c'est un peu noir, mais il cite aussi la sagesse populaire. Je vais le citer justement. La bonne vieille sagesse populaire les encourage à l'optimisme. Il ne fait jamais plus noir que lorsque l'aurore est sur le point de paraître. Mmh. Alors ça, c'est ce qu'il écrit dans son rapport. Et je suis convaincu que c'est cliché. Donc, cette idée qu'il y a quand même espoir, qu'on va réussir à sortir de ce bourbier. Et effectivement, il y aura un assainissement très certainement des pratiques syndicales.
Oui. Alors, il fait quoi après ça? Il retourne, il continue comme juge?
Ben c'est ça. Donc, il retourne à son métier de juge. Mm-hmm. Il partage son temps entre Saint-Joseph-de-Beauce et Québec, dont son, d'ailleurs, son voisin immédiat est un certain Gérald Godin qui vient d'être élu dans Mercier. Puis, si jamais il veut, il a besoin de sucre, il peut aller deux portes plus loin, c'est René Lévesque. Ah, ben, on est sur la rue d'Auteuil à Québec. Ça va bien? Oh oui, ça va bien. mais bon, rapidement, je disais tantôt qu'il y a un rapprochement avec le gouvernement, ou en tout cas avec le mouvement souverainiste, ça ne sera pas avéré, sauf peut-être qu'il devient, il devient le président ou le porte-parole plutôt de l'année du français en 78. Malheureusement, bon, ben, ça passe un peu sous le radar, cet événement-là. Le gouvernement québécois qui veut mettre de l'avant, c'était la suite de la loi 101, donc on veut promouvoir le français. Puis vous voyez la qualité de son français. Bon, un français tout à fait populaire, mais... En même temps, châtié, hein? Il n'y a pas de, il y a pas de faute. C'est un Français qui est très riche. Oui, donc, c'est le type par excellence pour ça. Ben, malheureusement, donc, problème cardiaque pendant l'été 78. Il va mourir à son bureau. Hein? Il revenait le jour même d'un long congé, donc à son bureau de juge à Québec. Il va mourir le 5 septembre 78.
À 57 ans seulement.
Oui, tout jeune.
Beaucoup trop jeune. Est-ce qu'il a servi, j'imagine, il a dû servir de modèle à bon nombre de juristes par la suite. Là. On a évoqué Lucien Bouchard et autres.
Oui, mais je vous dirais que l'évocation cliché est plutôt discrète, en tout cas de ce que je peux voir comme travail. Il se suffit à lui-même, on dirait. Il est comme une espèce de modèle. Par contre, il y a une postérité, notamment juste quelques jours après les funérailles, on va décider de rebaptiser la nouvelle autoroute de la Beauce. Autoroute Robert Cliche. Hein, déjà, on est en 78. Déjà, on dit oui, ça va être l'autoroute Robert Cliche. Il y aura le fameux prix Robert Cliche aussi qui récompense un premier manuscrit. Donc, il est présent. Il a MRC Robert Cliche, tout ça. Mais il est vrai que l'influence qu'il a pu avoir chez les juristes, ça reste à voir un peu. Ça sera creusé. C'est une bonne question que vous posez là. Disons, au premier abord, je dirais que c'est pas clair là, de ce point de vue.
Oui. En tout cas, orateur exceptionnel, oui. Hein, doué de magnétisme. Puis l'image aussi de son époque, vous l'avez dit, intellectuel, oui. Oui, des intellectuels, mais plus populaires, entre guillemets, mais oui. Bon, né dans les années 20, puis qui a flirté aussi avec l'indépendantisme, oui. Mais sans y adhérer. Hein, donc, oui. Mais sans être trudeauiste non plus, là. C'est pas un fédéraliste pur et dur.
Exactement. Donc, on voit comment le nationaliste se place chez lui, puis comment ça demeure une vertu cardinale, autrement dit. C'est quelque chose chez lui qui va diriger toute sa réflexion. Un ancrage dans le réel, et quand on comprend son ancrage dans le réel, on comprend les liens qu'on peut faire avec Gérald Godin, qui est beaucoup plus jeune que lui, qui va devenir pourtant un de ses meilleurs amis. Oui. Il y a le même souci de réel, d'ancrage, de parler populaire, d'un droit qui n'est absolument pas éthéré, mais au contraire, qui sert les citoyens et citoyennes du Québec. D'ailleurs, faites à noter, on sait que les derniers textes qu'il a écrits, qui n'ont pas été republiés, sont des textes sur la tolérance. Oui. Vertu évidemment très importante du droit, notamment autour des questions linguistiques. Il voyait bien que les enjeux était particulier autour du français, de l'anglais, appelait une sorte de tolérance dans ce domaine. Donc, ce sont des textes qui n'ont pas paru, malheureusement, mais où on voit vraiment, encore une fois, cet humaniste qu'était Robert Cliche.
Oui, il y a plus de 50 ans maintenant. Oui, hein? Exactement. Près de 50 ans. Oui. Mon invité, Jonathan Livernois, professeur d'histoire littéraire et intellectuelle à l'Université Laval, qui vient d'ailleurs de faire publier une biographie sur Gérald Godin, qui nous parlait depuis nos studios à Québec. Merci beaucoup, Jonathan.
Merci, Maxime, au plaisir.
Merci, à une prochaine. Ici Maxime Coutier, merci d'avoir été là. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, je vous souhaite une excellente soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.